Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est Eau de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Avec aujourd'hui à la technique Grégory Vallon et Julien Chabassu, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza d'Annecy. Xavier Pessugia réalise l'émission. Et bien sûr, une petite humeur. Ouverture de la chasse aux coupables donc cette semaine, après les catastrophes en série du week-end dernier. Mais plutôt que de nous lancer nous aussi dans un procès expéditif et retentissant du genre « Accusez mère, nature, levez-vous », je vous propose de nous rendre sur place pour une rapide reconstitution des faits. Vendredi 26 février, 21h31, heure de Paris, les îles Ryukyu, dans l'archipel du Japon, à 1500 km de Tokyo. Il fait encore nuit au pays du soleil levant quand le sol se met à trembler. Magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Nous sommes tous japonais, on n'a pas oublié la catastrophe de Kobe. Heureusement, on se réveille avec plus de peur que de mal. Samedi matin, 7h34 heure de Paris, au large de Maule, au Chili, à 300 km de Santiago. Depuis des dizaines d'années, le plancher de l'océan Pacifique est un adepte du rock'n'roll sous la cordillère des Andes. Et tout à coup, ça craque. La Terre se disloque sur 1000 km de long, l'île de Santa Maria fait un bond de 2 mètres de haut, les compteurs s'affolent, 8,8 sur l'échelle de Richter. On a reconstruit depuis 1960, heureusement, en parasismique, et donc samedi, on a limité les dégâts. Mais pour des millions d'entre nous, encore une fois, tout est à refaire. Samedi soir, heure de Paris, les îles Chatham en Nouvelle-Zélande. Pour se protéger du raz-de-marée venu des côtes chiliennes, on s'est tous réfugiés dans les hauteurs. La mer se retire soudain, puis les vagues arrivent. La marée basse est avec nous, rien de cassé. Dimanche, 2h du matin, en Vendée et en Charente-Maritime, Météo France nous annonce cette tempête. Vent violent, dépression creuse et fort coefficient de marée, alerte rouge sur 4 départements. Ça va cogner, on le sait, c'est pas la première fois. On n'a pas pu venir la vague centennale qui s'ajoute à la marée d'équinoxe. La vague qui saute par-dessus les digues, qui s'engouffre dans les brèches, engloutit les parcs à huîtres, les lotissements, les campings, les pieds dans l'eau, les bien nommés cette fois, comme c'est écrit sur les brochures rédigées par des poètes. Dimanche matin, 3h, il fait encore nuit quand l'océan entre par la porte de la cuisine et envahit la chambre. On tente de s'échapper, on grimpe sur le toit, on est tous des naufragés sur nos petites îles en tuiles. La mer est aspirée par le haut. Alors dans les temps un peu plus reculés, les anciens qui ne construisaient pas au bord des couloirs d'avalanche en montagne, donc les anciens gardaient leur distance avec l'océan. Habiter à 2 km de la mer à l'époque, ce n'était pas considéré comme un frein à la croissance. Et pour aller à la plage, on prenait le vélo. Les maires ne faisaient pas la guerre à l'État pour qu'on leur laisse délivrer des permis de construire aussi risqués que des actifs toxiques de banque. Bref, dimanche dans la nuit, nous avons perdu des pavillons, des parcs à huîtres, nos cabanes, nos moutons, nos réserves naturelles et nos prés empoisonnés par l'eau salée. Aujourd'hui, nous sommes tous des Japonais, des Chiliens, des Néo-Zélandais, des ostréiculteurs, des paysans, des vacanciers, des retraités. Et si au bout du compte, nous étions tous sur notre petite planète sauvage qui ne fait que son boulot de terre, plus ou moins déréglé par les hommes, si nous étions simplement des terriens? Alors, au menu de cette émission, trois volets, je commence par la fin. Nous rejoindrons Pierre Prakash en Inde. Ce sera notre découverte de ce pays, Inde et environnement. Et puis auparavant, eh bien, nous serons en France, dans les Hautes-Pyrénées. Et là, ce sera une balade qui nous fera pas mal de bien. On ira à la rencontre des ours, à la rencontre des vautours avec Christian Rajval dans les Hautes-Pyrénées, dans la réserve naturelle du Pibest. Et puis, bah, tout de suite, je vous l'ai dit, il est avec nous, en direct comme très très souvent. Mais là, il se trouve qu'il est venu dans cette sympathique bourgade qui s'appelle Paris. Jean-Marie Pelte, bonjour.
Bonjour, bonjour Denis.
Voilà, on a un peu évidemment modifié nos programmes parce que avec cette actualité, vous avez, je pense, que différentes petites choses à dire. Protéger la nature, oui, mais aussi s'en protéger sûrement, construire des digues, construire des murs, rendre de la terre à la mer que vous inspire, si j'ose dire, cette tempête, Jean-Marie.
Eh bien, et ce qui est très frappant, c'est que lorsqu'on voit les courbes de l'évolution de la démographie, tout ce qui est sur le littoral gagne des habitants et tout ce qui en est éloigné en perd. C'est très net pour le midi méditerranéen, c'est très net aussi pour l'ouest. Et évidemment, il y a le mythe de la mer, qui est un mythe extrêmement puissant, à croire qu'on ne peut vivre retraité que si on est au bord de la mer, et comme vous l'avez dit très justement, les pieds dans l'eau. Alors, ça me fait penser à ce qu'on disait autrefois et ce qu'on commence timidement à redire, c'est qu'il faut faire des digues, naturellement. Mais les digues, il ne faut sans doute pas les mettre absolument au bord de l'eau. Il faut les mettre en arrière. Et il faut laisser une zone où la mer, lorsqu'elle est haute, peut divaguer exactement comme on le fait pour les fleuves, comme on le fait pour la Loire. Cette capacité de la mer à, par exemple, recouvrir des marécages lorsqu'elle monte très haut avec des forts coefficients de marée et un vent très fort, comme ça a été le cas, ça lui laisse la possibilité de s'étendre sans faire de dégâts. Alors, la difficulté, c'est que les communes n'ont pas du tout cette oreille-là.
Bah, un élu local et un promoteur ne vont pas forcément entendre ça.
Non, voilà. Bien sûr, parce qu'ils veulent construire. Si on construit, ça donne des taxes d'habitation et ça donne des taxes foncières à la commune. Si on est protecteur, ça ne donne rien du tout. Donc, il faut inventer, à mon avis, enfin, c'est une suggestion, une fiscalité écologique, comme le disait hier quelqu'un à Thalassa, j'ai trouvé ça très pertinent, une fiscalité écologique qui répartisse les revenus entre les communes qui peuvent construire parce qu'elles ne sont pas très basses sur le niveau de la mer et les communes qui, elles, ne le peuvent pas. Mais il faut absolument que désormais on ne construise plus dans les zones à risque et qu'on laisse à la mer la capacité de divaguer. Je pense à ce qui se passe à Blois. À Blois, on a construit sur quasiment le lit de la Loire. Et on a décidé que 500 personnes devraient déménager d'un quartier qui est un quartier directement inondable, où on a construit alors qu'on n'aurait jamais dû le faire, parce que comme la mer, les fleuves divaguent quand ils ne sont pas endigués d'une manière stricte, et quand ils sont endigués d'une manière trop stricte, alors ils débordent. Et ils débordent, et cette fois-ci, ils envahissent les villes.
Alors, il y a des plans de prévention du risque d'inondation, mais on sait qu'ils ne sont pas exactement suivis. On a aujourd'hui en France une commune sur trois en zone inondable, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera forcément inondée, que ce soit en submersion, que ce soit en débordement de rivières ou de fleuves. Et puis, on sait que, alors, bon, on ne sera pas là les uns les autres pour le voir, mais que la mer, le niveau, l'élévation du niveau de la mer d'ici un siècle, ce sera peut-être un mètre. Ce ne sera pas uniforme, mais ce sera fortement régionalisé. Et on voit une carte qui avait sorti à Rountaziev il y a à peu près une trentaine d'années. C'était fait tirer dessus d'ailleurs aussi à l'époque. C'est à peu près effectivement la même carte aujourd'hui où on voit des zones. On sait très bien dans la région de Dunkerque que l'on est menacé, dans certains coins de la Picardie, dans certains coins donc de la Camargue, des Landes. Et comment faire dans un monde, je dirais, qui oublie le passé et qui s'affranchit quand même de l'avenir tout en parlant sans arrêt de générations futures qui sont invisibles, Jean-Marie ?
Alors il y a le discours et puis il y a ce qu'on fait. Et c'est pas la même chose. L'accident qui s'est produit en Vendée est un accident somme toute classique qui a eu le malheur de se produire à un endroit où on avait construit sur des zones très très basses. Il évoque pour moi l'accident majeur qui traîne dans le conscient ou l'inconscient des écologistes. Imaginez qu'il se passe le même scénario au Bangladesh, qu'il y ait une forte marée montante, qu'il y ait une forte tempête qui pousse l'eau encore plus loin et qu'il y ait en même temps des pluies de mousson très fortes qui font déborder le Brahmapoutre et le Gange. Alors on pourrait recouvrir ainsi le tiers du pays et ça ferait des millions de morts. Et c'est actuellement la catastrophe que l'on met en avant comme étant la plus redoutable qui puisse se produire sur la planète, hormis l'explosion d'un supervolcan. Mais il n'y en a que trois dans le monde des supervolcans qui pourraient faire des dégâts aussi considérables. Mais on pourrait avoir des millions de morts. Donc pourquoi l'homme construit et va habiter là où c'est dangereux? Alors ça, c'est l'homme. C'est la prise de risque, consciente ou inconsciente. Pourquoi y a-t-il 3 millions d'habitants à Naples, au pied du Vésuve, alors qu'on sait que le Vésuve est un volcan en activité et qu'il y a tout près un supervolcan qui est encore pire que le Vésuve et qui pourrait tout faire éclater. Voilà. Alors peut-être qu'on va se réjouir d'habiter en Moselle, figurez-vous.
Oui,
on n'est pas
venez.
En zone sismique où la mer ne monte jamais.
Et vous êtes venu là parce qu'il fait un petit peu froid, c'est ce que j'ai vu ce matin donc chez vous. On rappelle juste cette phrase, c'est que faire de la prévention, ça coûte cher, mais ne rien faire, ça coûte encore plus cher. On vous retrouve, Jean-Marie, dans quelques instants et on va se refiler la patate chaude des OGM, si vous le voulez bien.
Hein ah oui, tout à fait.
Vous aimez
oui,
ça,
oui,
vous
oui,
aussi.
Oui.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. if we dance. Come to the world. Come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance?
Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time. And yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger.
Choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice, c'était Indy Zara sur France Inter, Beautiful Tango, suite de CO2 Mon Amour avec Jean-Marie Pelt dans ce studio pour décortiquer un petit peu l'actualité. Je tiens à rappeler que dans votre dernier ouvrage, donc Les dons précieux de la nature,
dont vous êtes co-auteur,
dédié à la biodiversité, il y a, cher Jean-Marie, cette idée quand même de faire avec la nature et de ne pas faire contre.
Oui, c'est ce qu'on vient de dire pour la manière dont il faut ménager les risques de la mer. Alors la question, c'est, on a cette semaine le scénario des OGM.
La patate chaude OGM, alors on y va.
C'est une patate chaude, oui, voilà. Tout à fait.
On sent un peu le passage en force hein, quand même de la commission dirigée par le très libéral et très peu environnementaliste, M. Barroso.
Oui, tout à fait. Enfin, ce qui s'est passé à la commission, c'est qu'elle a changé de composition et que le commissaire en charge des OGM en particulier, M. Dimas, qui était un Grec, était très hostile aux OGM. Oui. Donc pendant une dizaine d'années, il ne s'est rien passé du tout à la commission, bien que M. Barroso était très favorable. Et puis M. Dignas, ça n'a pas été remplacé, il a été remplacé par un commissaire estonien qui, lui, n'a pas la même position. Et du coup, les lobbies sont passés en force. Alors, on a eu droit à la patate, en effet. Et puis, on va avoir droit à plusieurs maïs, dont on nous annonce dès à présent qu'ils vont être autorisés dans les meilleurs délais.
On a 3 ou 4 dans les tuyaux actuellement.
C'est ça. Oui. Alors, cette pomme de terre, pourquoi nous inquiète-t-elle ? Elle nous inquiète... bien qu'elle ne soit pas destinée à l'alimentation humaine.
Non, elle est destinée à la papeterie au départ.
À la papeterie, absolument. Oui, alors ça déjà c'est une étrangeté, parce que faire du papier avec les pommes de terre, c'est bizarre, puisqu'on fait du papier avec les arbres. Qui ça arrange ? Ben, ça arrange la multinationale qui fabriquera la pomme de terre. Ça n'arrangera pas nous, ça ne servira à rien pour le consommateur. Votre papier journal, il sera fait soit avec du bois, soit avec les pommes de terre, vous ne verrez pas la différence. Donc ça n'a aucun intérêt pour les consommateurs. Et c'est le cas de pratiquement tous les OGM jusqu'à présent, qui n'ont jamais apporté quoi que ce soit aux consommateurs. De sorte que les consommateurs s'en méfient, et qu'à ma grande stupéfaction, dans un sondage du Figaro, on s'est aperçu qu'il y avait quand même 71% de gens qui étaient hostiles à cette patate. Mais ce sont des lecteurs du Figaro. C'est la question que le Figaro pose tous les jours. Donc s'il y a 71% des lecteurs du Figaro qui sont hostiles à la patate, il y a du coup 90% de Français, parce que les gens du Figaro ne sont pas des ultra-écolos, ce sont plutôt des gens relativement conservateurs.
Alors Jean-Marie, maintenant rappelons un petit peu le principe, parce qu'on nous dit que l'agence européenne de sécurité des aliments, qui est quand même le bras scientifique de la Commission, nous dit qu'il n'y a absolument aucun danger. Alors faisons bien la différence entre les risques sanitaires et les risques environnementaux. Comment elle fonctionne cette pomme de terre?
Alors au point de vue sanitaire d'abord, elle contient un gène de résistance aux antibiotiques et en particulier aux antibiotiques utilisés dans la lutte contre la tuberculose. Si ce gène passe dans un animal, puisque cette pomme de terre servira aussi à l'alimentation animale.
Oui, c'est-à-dire que les restes de la papeterie pourront nourrir les animaux.
Voilà, voilà. Ce gène passera donc au niveau des animaux. Si nous mangeons l'animal, il peut passer dans notre intestin. Et donc, notre résistance à ces antibiotiques va être accrue. Et c'est un des risques sanitaires qui a déjà été maintes fois dénoncé concernant les OGM. Il y avait eu un engagement d'ailleurs des producteurs d'OGM de ne plus utiliser les gènes de résistance aux antibiotiques. Vous voyez que les promesses ne lient que ceux qui les écoutent.
Alors donc cette agence européenne de sécurité des aliments dit que le risque de transfert de la plante à l'homme est très très faible. Chantal Joanneau ne dit pas cela du tout non plus dans Le Parisien, qui a fait aussi deux très bonnes pages. D'abord sur la composition aussi de cette agence européenne de sécurité des aliments, parce que bon, on s'est rendu compte, et pourquoi pas, mais que depuis sa création en 2002, elle a rendu plus de 40 avis sur les OGM qui sont tous positifs.
Oui, alors nous avons de très solides raisons de mettre vigoureusement en cause cette agence une fois pour toutes, je dirais. Parce que, tout de même, mon ami Gilles-Éric Serralini, Madame Corinne Lepage, dans le cadre du CRIGEN, dont je suis le secrétaire, nous avons travaillé sur les données que nous avons eu beaucoup de mal à obtenir concernant le maïs autorisé, le Monsanto autorisé.
Juste pardonnez-moi, le CRIGEN, c'est donc organisme indépendant
d'expertise et d'information sur le génie génétique. Voilà. Et alors, sur ce maïs, nous avons étudié, c'est Gilles-Éric Serralini, a étudié les effets de ce maïs sur la santé de rats qui en ont mangé pendant 90 jours. Et il a remis tout à fait en cause les résultats proposés par Monsanto. La méthode d'analyse statistique des résultats est discutable. Il a publié ça dans une grande revue internationale. Moi, je suis très choqué qu'il n'y ait pas vraiment, une fois pour toutes, un vrai débat sur cette question. Alors, la fameuse agence européenne, c'est toujours la même chose. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est la doctrine de cette agence.
Alors on dit, Chantal Joanneau et d'autres ONG, hein, il y a beaucoup de monde là sur cette affaire-là, même Borloo, disent qu'on s'est intéressé aux conséquences sanitaires, mais pas environnementales. C'est-à-dire que la contamination des sols, les conséquences sur les autres espèces ne sont pas prises en compte. Et peut-être qu'une fois de plus, on se rend compte que le champ est une paillasse de laboratoire.
Mais tout à fait, parce que dès lors qu'une plante transgénique, la plupart contiennent des pesticides, est cultivée, quand on récolte la plante, on récolte généralement pas les racines, et les racines vont contaminer, bien entendu, toute la microfaune du sol, toutes les petites bestioles du sol.
Est-ce qu'on est sûr, c'est sur le bien entendu, parce que est-ce que là on en est sûr, autant on le voit très bien sur le maïs, la dissémination, c'est fait, c'est avéré.
Ça oui, c'est ce qui a été d'ailleurs la raison pour laquelle la France a activé la clause de sauvegarde pour interdire la culture chez nous de ce fameux maïs transgénique qu'on ne cultive plus actuellement. Pour cette raison-là, pour cette raison environnementale. Donc il faut bien savoir qu'il y a des problèmes environnementaux clairement pris en compte, et puis qu'il y a des problèmes sanitaires qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, comme on le répète depuis 15 ans, qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Ce n'est pas vrai. Alors, il faut vérifier et faire des expérimentations sur 2 ans et pas sur 90 jours.
Et donc, José Manuel Barroso dit que le choix sera donné aux États de cultiver ou non les OGM, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'instant.
Non.
Mais en tout cas, c'est ce que l'on fait miroiter. Et puis, Jean-Marie, je vous souhaite de bonnes frites, mais là, il n'y a pas de souci. souci, hein, on ne fait pas d'amalgame, ce n'est pas du tout la même chose. Donc sur l'alimentation, au départ, ce n'est pas du tout prévu pour cela, hein, donc on le rappelle. Évidemment, donc l'UIPP, le Groupement National d'Interprofession et d'Espance, étonnement et consternation face à l'agitation générale. Donc en gros, ils renvoient donc les opposants au Moyen-Âge. Merci beaucoup Jean-Marie, on se retrouvera la semaine prochaine. Et puis aussi les dons précieux de la nature, hein, même si ce n'est pas le cœur du sujet, les OGM, c'était important que vous soyez avec nous aujourd'hui. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour.
Oh mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour, pense à moi. Je pars pour l'aventure car ici la vie m'ennuie. Recompter les blessures, compter l'infini. Parcourir le monde, y déployer mes ailes. Et si je suis une ombre, un seul dans la centaine. Oh mon amour, juste un dernier tour. Mon enfance morte depuis peu. Retrouve l'innocence, une flamme pour mon feu. Je quitte la tombe que le temps creuse en sourdine. Ici je suis une bombe, un fantôme, une machine. Oh mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour, pense à moi.
Si loin de moi, mais je n'y suis pour rien. Pense à moi.
Je pars dans le désert au lieu de creuser dans les villes. De très beaux cimetières, des colosses aux pieds d'argile. Je pars si loin de toi, mais tu n'y es pour rien. Ici tout y est plat, là-bas tout y est plein. Oh mon amour,
juste un dernier jour.
Pense à moi,
oh mon ami, juste un dernier cri pour une nouvelle vie. Pense à moi, juste un dernier tour.
Eh ben, si elle pense pas à elle, après tout ça, hein, c'est à désespérer. C'était Luc qui interprétait cette chanson donc sur France Inter. On va aller dans les Pyrénées, penser aussi vers celles et ceux qui ont été bastonnés par cette tempête, la région de Luchon, là on est en Haute-Garonne. Mais nous allons partir dans le département absolument voisin, donc celui des Hautes-Pyrénées.
On est sur un massif calcaire, il y a des orchidées vraiment très intéressantes. Il y a des genêts spécifiques au coin, il y a surtout des plantes méditerranéennes. Donc le conservatoire même botanique de Bagnères est venu faire un inventaire et il est certain que ce soit matière animale ou végétale, on a vraiment un biotope à protéger.
On est face, on va dire, à un petit cirque. Alors évidemment, ce n'est pas celui de Gavarnie qui est derrière,
c'est
celui,
magnifique,
de, celui de Troumouze ou d'Estobé, mais c'est vrai que c'est très, très
c'est
beau.
C'est le bas de la vallée du Bergonce, ouais. Et tu as les communes donc, qui font partie de la réserve, pas toutes, mais tu as Salarges-l'Est, tu as Ouzous en bas, ouais. Après tu as Agos-Vidalos plus bas, et donc c'est les communes qui ont intégré la réserve. Il faut préciser que cette réserve a été faite à l'initiative d'élus locaux, ouais. Et en plus chasseurs. Ils ont eu l'autorisation, donc c'est la seule introduction dans les Pyrénées de mouflons. Donc on a le mouflon, on a environ 300 mouflons dans le massif qui sont gérés par des plans de chasse et par les chasseurs.
Bon, qui sont un peu des moutons améliorés, on va dire.
Oui, c'est le mouton sauvage.
Allez, du grand air, donc deuxième volet de cette émission de ce magazine. Nous allons partir donc dans les Hautes-Pyrénées avec Christian Ringeval, qui pendant 36 ans a été garde-moniteur dans ce parc national des Pyrénées et qui aujourd'hui est responsable communal d'une réserve qui s'appelle la réserve naturelle du Pibest, extrêmement importante, hein, près de 5000 hectares. Nous sommes, pour celles et ceux qui connaissent, pas loin du Val d'Azun, du massif de Spandel, Saint-Pé-de-Bigorre n'est pas loin. Et Christian Ringeval est un ornithologue tout à fait reconnu, c'est surtout un homme de terrain. Donc il connaît les hommes, il connaît les différentes mentalités, les mosaïques de pensée qui s'opposent et qui parfois quand même trouvent un accord entre les bergers, les chasseurs, les protecteurs, les naturalistes, les randonneurs. C'est un homme qui fait assez attention au manichéisme écologique, tout en honorant d'ailleurs aussi les ours. Et nous partons avec lui, non loin de cette réserve du Pibest, en compagnie de Christian Ringeval dans les Hautes-Pyrénées. Ah, Christian Ringeval vient de sortir son instrument de prédilection, son outil, c'est presque sa prothèse, c'est-à-dire ses jumelles. Que voit-il, Christian, là ?
J'observe les falaises qui sont colonisées là, depuis 2003 par les vautours fauves, donc, qui sont descendus tout près d'Agos Vidalos.
Alors, que se passe-t-il aujourd'hui donc, avec ces vautours ? Parce que vous avez quand même des gens qui vous disent « attention, avant, effectivement, ils mangeaient des bêtes mortes, ils faisaient le boulot de nettoyeur, et puis maintenant, ils s'attaquent à des bêtes vivantes ».
Les vautours, c'est vrai qu'on ne s'est pas alarmé assez tôt, mais cette surpopulation est arrivée surtout d'Espagne, dans les élevages de cochons, ces élevages où tu as des centaines de cochons. Oui. Dès qu'ils avaient un problème de bêtes mortes, ils te bazardaient ça par-dessus les barrières, et puis les vautours, ils venaient par centaines, quoi. Et donc, c'est, on peut dire, sur l'Espagne, c'est des milliers de vautours. Et après, le vautour, lui, qu'est-ce que tu veux, il est malin, hein, il colonise, il manque de nourriture, il traverse les Pyrénées.
En fait, il y a eu surpopulation, il y en a eu de trop.
Oui.
Et ils n'ont pas pu se nourrir avec la nourriture
exactement,
qui était à terre.
Exactement.
Et donc, ils sont allés chercher le gîte.
Tu t'imagines qu'ils sont montés un jour jusqu'à Bruxelles ?
Les vautours ?
Les vautours sont montés un jour jusqu'à Bruxelles.
Ah !
Moi, j'ai cru que c'était une histoire belge.
Pour aller voter au Parlement européen ?
Je croyais que c'était une histoire belge, mais non, mon fils me l'a confirmé et tout, avec Internet, mais, puisqu'il bosse en Belgique. Oui. Non, papa, il a été vu d'une bande de vautours à Bruxelles. Pas besoin de passeport, hein, comme on dit.
Ça, ouais.
Et ce qui fait qu'ici, là, en 2003, tu vois, et donc il n'y a que 6 ans, eh bien, il est arrivé une colonie qui maintenant arrive à 27. Avec la faim, eh bien, un vautour qui ne se débrouille pas bien, une vache qui a des problèmes. Et encore récemment, je crois, il y a une semaine, carrément, ils ont attaqué la matrice d'une vache, elle était vivante, quoi. Ouais. Imagine le berger qui assiste à ça, quoi.
Bien sûr. Vous-même, soyons très clairs, avec votre fille, vous avez aussi assisté à ça, avec une brebis. Hein.
Tout à fait, oui. Je me souviens, pourtant, elle avait 18 ans, Céline, ma fille, elle pleurait, quoi. « Papa, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On était à 300 mètres, on a vu tout le manège. Cette prédation à laquelle on a assisté, nous, et c'est souvent le cas, et ça, les bergers ne le voient pas, c'est en fait deux grands corbeaux qui ont commencé par crever les yeux de la brebis en question.
D'accord.
Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils lui ont vraiment dévoré les yeux, vivante, et elle a crié de douleur, quoi. Par contre, on n'avait pas vu les vautours, ils étaient posés plus bas, ils sont montés, alors franchement, en 10 minutes, ils avaient dévoré déjà les deux cuissons arrière, et ils n'attendaient que ça, mais ils ont laissé faire le boulot au corbeau.
Qu'est-ce que l'on peut faire ? Ces bêtes-là sont des espèces donc, qui sont protégées, hein, me semble-t-il.
Elles sont toujours protégées, voilà. Elles ont toujours un statut de protection. Peut-être il va falloir surveiller. Bon, cette année, ça se passe bien, il n'y a pas trop de naissances. Il faut surveiller le quota de naissances et peut-être un jour intervenir sur les œufs ou autre et ne pas systématiquement chercher que protéger, développer, quoi. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'ai une peur énorme, c'est les gens exaspérés, s'ils commencent à sortir
le poison
détruit tout.
Alors là, on est quand même face à cette vallée des Gaves. On est sur un petit col, on est à peu près à aller un petit millimètre d'altitude. Et là, on ne se lasse pas. Alors à la fois sur la gauche, on a la montée sur Otacam, on a au loin Luce Saint-Sauveur. D'ailleurs, rien que le nom Luce, la lumière, quoi, c'est
oui,
ça.
Tout hein, donc, ah, oui, tout à fait. Alors là, tu as une chose extraordinaire. Malheureusement, c'est le coin où est mort le fameux ours papillon qui était venu se perdre depuis la vallée d'Aspe. Ça prouve bien que cet animal ayant choisi ce lieu, là, franchement, il y a une zone refuge. Oui. Mais ce que je crains pour les ours dans le futur, c'est que ces zones refuges sont extrêmement rares en Haute-Pyrénées.
Dans notre village, autrefois, un ours énorme dévastait le bois.
Alors justement, Christian Rajoual, donc ce problème de l'ours, bah vous l'avez suivi, on sait très bien que c'est toujours extrêmement conflictuel. En 1967, il y avait une trentaine de plantigrades. Il y en a évidemment beaucoup moins aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que l'on constate quand même? Parce qu'il est un peu sous perfusion, cet ours.
Est-ce que de s'être précipité, à mon avis, comme on a fait, et on peut le comprendre en se disant, bon, il reste quelques ours pyrénéens, ce qui serait bien, c'est de les croiser, quoi. En gros, c'est ce qui a été recherché. Mm-hmm. Ça a marché en partie, puisque le petit de Canel, notre pauvre ours qui est morte, donc il est moitié slovène, moitié pyrénéen. Mais je trouve, à mon avis, tout à fait personnel, je ne suis pas du tout scientifique, mais peut-être on s'est un peu précipité, croyant que les mentalités avaient vraiment changé, quoi. Et je pense que l'ours, il a été très mal perçu, et surtout en Haute-Pyrénées en plus.
Il y a quand même eu une coupure, on va dire, culturelle, parce que pendant très longtemps, on a vécu avec l'ours ici, ou bien peu importe avec et contre. Et puis après, bah, il n'y a plus eu grand-chose, quoi. Et puis on a quand même eu une urbanisation, lente, mais en tout cas certaine, une acceptation qui est complètement différente, évidemment, de la part des bergers aujourd'hui. Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas, certains en font un produit d'appel, d'autres ne veulent pas en entendre parler. On a peut-être été effectivement un petit peu vite, peut-être.
À mon avis, on a été vite. Et alors, je vais te dire, le gros problème en Haute-Pyrénées, et surtout en Pays Toy, c'est que les gens n'étaient pas du tout habitués à garder des bêtes de lait. Oui. Donc, on ne fait pas la traite le matin, on ne fait pas la traite le soir. Donc, on n'a pas besoin d'être constamment avec son troupeau. Et les gens n'ont pas supporté que d'emblée, on leur dise, maintenant, vous allez garder votre troupeau.
Même si on vous donne des patous, etc.
Mais oui, mais on vit une vie moderne. C'est sûr que si le gars, il fait ses foins en bas, il ne peut pas être en haut. Il n'y a plus de familles de 8 ou 10 où on s'entraidait. Oui. Le gars, il veut vivre avec son temps. Et il ne va pas accepter d'aller coucher tous les soirs, surveiller ton troupeau de bêtes de viande comme ça se fait en Béarn et par rapport à ici, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'ours, mais il y a aussi, on est face à un animal qui est très près de l'homme, quoi. Par sa gestuelle, la façon de se lever, la force, la puissance, tous les mythes qu'il y a eu autour. Et puis après, on s'aperçoit que je l'ai vécu quand tu cherches à le filmer. Tu as l'impression que tu as en face de toi quelqu'un qui réfléchit, quoi. L'animal, mais qui réfléchit, quoi. Tu crois le voir, tu ne le vois pas. Tu vois des indices très frais, tu ne le vois pas.
Alors le territoire à ours, quel est-il pour qu'il soit bien, puisque là on y est. Donc il faut d'abord de l'espace, il faut du calme.
Il faut l'espace. Moi, je pense qu'il faut des zones refuges. C'est peut-être un peu ce qui nous manque en Haute-Pyrénées. Par contre, tu vois, quand tu regardes une vallée comme ici, y compris le massif de Otakam, tu te rends compte que tout est fait pour le retour. Je parle de la nature, au-delà de ce que veulent ou veulent pas les hommes. Tout est fait pour que ces animaux vivent, parce que tu as le sanglier qui revient. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons. Tu le vois que ça se boise, quoi. C'est fou. Il y a peut-être un peu trop d'urbanisation dans certaines vallées, puis surtout un manque de zones refuge. J'ai une autre inquiétude, c'est justement les surpopulations. Et il faut que les chasseurs les régulent. C'est la cohabitation entre sangliers et ours. Ah, oui. Ils sont pratiquement dans les mêmes milieux, ils recherchent les mêmes zones un peu refuge, et puis surtout en matière de nourriture. Mm-hmm. Parce que, on le dit à juste titre, l'ours est un omnivore, oui. Le sanglier aussi, et donc il y a des scientifiques roumains et italiens et tout ça qui ont prouvé qu'une surpopulation de sangliers, c'est néfaste à l'ours.
Il y a peut-être une chose qu'on a loupée aussi, c'est une réintroduction du bouquetin.
Ah oui, mais le bouquetin est une chèvre sauvage, dont un entretien de certaines zones, ça aurait été très intéressant, ça aurait empêché certains milieux de se fermer. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, au printemps, par exemple, à partir du moment, bien sûr, il y aurait une population assez importante, ça pouvait être un apport de nourriture dans les avalanches, etc., au printemps, par rapport aux ours.
Et voilà.
Parce que ça, je l'ai vu dans un film extraordinaire sur la scène tournée par la BBC. Tu voyais dans le Caucase des ours se balader à plus de 3000 mètres. Alors vraiment, au début, tu ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent Ils étaient dans des éboulis. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à 3000 mètres, quoi. Et en fait, ils avaient un circuit printanier. Ils allaient se faire un circuit chaque année où dans les avalanches, ils récupéraient des chamois, des bêtes mortes. Tu vois. Et pendant un temps, ça peut les calmer pour éviter des prédations sur les animaux domestiques. Oui. Une fois qu'il a le ventre plein pendant une semaine ou deux, moins de dégâts, quoi. Oui.
Christian, merci beaucoup pour cette promenade dans cette région du Lavedan, donc inscrite dans la Bigorre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ?
Eh bien, une bonne retraite, mais j'ai de quoi m'occuper avec la réserve.
Ouais, ça devrait aller.
Tout à fait.
Voilà, oui, ça, tout à fait. Ça fonctionne. Et puis que tout le monde, c'est-à-dire élus, protecteurs de la nature, chasseurs,
arrive,
et tout leur compte.
Arrive à s'entendre pour faire avancer les choses, je pense que.
Il y a des clés quand même. Hein.
Oui, les élus en ont pris conscience. Il faut se battre un peu avec certaines personnes, un peu réticentes, mais bon. Oui. C'est passionnant d'un côté.
Merci Christian, à bientôt.
Eh bien, au revoir Denis, à Dichat, comme on dit ici.
Alors le sujet est évidemment encore chaud, on s'en doute bien, et puis peut-être que dans 5-10 ans, il le sera toujours. Juste quand même, petite précision, mais c'était assez clair dans le discours de Christian Ringeval, c'est pas la majorité des vautours hein, qui attaquent des bêtes vivantes, simplement ça existait. Les écologistes ont nié cette affaire-là, non, ça existait, et on a quand même des preuves là-dessus, mais c'est pas la majorité non plus, donc pas de panique. Et puis comme je l'ai eu ce matin au téléphone, il m'a dit « Écoute, il y a le printemps qui arrive, on a un très bon indicateur, on a vu deux percnoptères qui viennent, donc c'est des grands migrateurs du sud qui viennent d'Espagne et de Mauritanie. Et là, ça y est, on a déjà une bouffée de printemps dans les Hautes-Pyrénées. Allez, dans quelques instants, troisième volet, on part en Inde.
Amis des embouteillages et des pots d'échappement, du béton sauveur de l'homme, des décisions à court terme. Et si vous vous dites, après moi le déluge et la pollution, surtout, n'écoutez pas CO2, mon amour. Ne vous faites pas de mal.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
You're probably right, seen from your side, that I've been lucky. I've been meaning to crack all week. Yes, I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I've found something to look for. Can't decide, 'cause I might find to stroll behind is better than to scroll, just like I did before. It wouldn't be true not towards you to say that I'm staying. And on every single impulse, on every other move I react. And any old creek would change in technique. You'll see me playing. After any old motherfucking roll, I'll be back.
C'était Deus Instant Treat sur France Inter. Nous poursuivons ce voyage, ce magazine, troisième page. Nous allons partir en Inde. 3 200 000 km², 1 600 000 000 d'habitants, 28 États, 8 religions. Je m'arrête là. Je peux ajouter 250 000 ingénieurs quand même qui sortent tous les ans. Et puis bon, il s'agit pour ce pays aussi de vaincre ces démons, d'extirper, je dirais, l'esprit de caste et un certain fatalisme hein, qui s'inscrit dans la mentalité collective. Et puis ça conforte aussi un système des plus inégalitaires au monde. On va s'intéresser donc à l'environnement avec Pierre Prakash, qui est journaliste pour RFI, qui est correspondant, qui travaille aussi pour différents journaux, pour faire un peu le point sur cet immense pays. Pierre Prakash, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Pierre, dites-nous, en Inde, est-ce qu'il existe une conscience environnementale? Est-ce qu'on peut parler de cela?
Malheureusement, pas vraiment, ou plutôt cette notion commence tout juste à faire son apparition dans ce pays. Alors, je précise qu'il existe quand même, évidemment, dans ce pays, une multitude d'ONG qui travaillent sur les questions environnementales, souvent de manière très professionnelle, mais elles ont, en tout cas la plupart du temps, une action très localisée au niveau d'un village ou d'un district, Et par contre, les autorités et l'opinion publique sont-elles loin d'être sensibilisées à ces questions? Pour prendre des exemples concrets, tout le monde ici trouve totalement normal de jeter des détritus dans la rue ou par les fenêtres des trains. Il n'existe pas vraiment de système de ramassage des ordures, donc encore moins de tri. Il y a une quantité inimaginable d'usines qui déversent toute impunité leurs déchets, y compris toxiques, dans les cours d'eau. Les normes de pollution pour les véhicules sont absolument pas respectées. L'agriculture se fait à grand soutien de pesticides qui contaminent les nappes phréatiques. Bref, on est très loin de la conscience écologique et de la législation qu'on connaît aujourd'hui dans les pays développés. Il n'existe d'ailleurs pas encore de parti vert ici, et ces questions ne figurent même pas dans les programmes électoraux des grands partis politiques, car d'un point de vue gouvernance, eh bien, l'environnement est loin d'être une priorité. Ce qu'il faut quand même dire est assez logique, car il ne faut pas oublier que malgré sa forte croissance économique ces dernières années, l'Inde reste un pays majoritairement pauvre, voire très pauvre. Mmh. Et il y a donc d'autres dossiers plus urgents pour les autorités, la lutte contre la pauvreté, le renforcement des systèmes de soins ou d'éducation. Mais bon, le fait est que le manque de conscience écologique est quand même très problématique, car on parle d'un pays, comme vous le disiez, qui compte pour 1/6 de la population mondiale. Et vu la vitesse à laquelle les choses vont, eh bien, les dégâts risquent d'être irréparables, par exemple sur la question cruciale de l'eau.
Alors, c'est vrai que vous vous évoquez donc ce peuple indien. On rappelle qu'il y a à peu près 500 millions de personnes qui vivent avec 1 dollar ou moins de 1 dollar donc, par jour. Tout ceci arrive à l'eau, justement, dans les fleuves, dans les rivières. Donc, quelles sont les inquiétudes liées à la question de l'eau?
Pour résumer, en gros, l'alimentation des nappes phréatiques indiennes dépend en grande partie de la qualité de la mousson qui a lieu entre juin et septembre. Or, avec le dérèglement climatique, cette mousson est de plus en plus imprévisible, de plus en plus inégalement répartie sur le territoire. Or, quand la mousson est mauvaise, eh bien, il y a des pénuries d'eau qui touchent directement les habitants. D'autant que je précise que l'alimentation municipale en eau reste très aléatoire dans les villes et carrément inexistante dans les campagnes. Si bien que la majeure partie des Indiens, eh bien, pompent directement dans les nappes phréatiques pour leurs besoins quotidiens. On se retrouve donc avec des situations où des quartiers entiers de grandes villes, hein, comme New Delhi, où je me trouve, par exemple, n'ont par moment plus d'eau du tout, notamment pendant les périodes de grosse chaleur, dépendent donc de camions citernes envoyés par la municipalité, au mieux, au pire, par des agents privés qui, évidemment, facturent. Et à ces pénuries s'ajoute aussi la question de la pollution des nappes phréatiques dont je parlais tout à l'heure, notamment par les pesticides, mais aussi par les déchets industriels. Et évidemment, la question des glaciers de l'Himalaya qui sont en train de fondre à vue d'œil alors qu'ils alimentent tous les grands cours d'eau du pays.
La pollution atmosphérique est aussi un gros problème. Là, je ne sais pas si vous nous parlez avec les fenêtres ouvertes à New Delhi ou bien les fenêtres fermées. Comment ça se traduit? Parce que vous êtes quand même dans une des villes les plus polluées du monde.
Effectivement, c'est une des villes les plus polluées du monde, ce qui est en grande partie dû au parc automobile. La capitale indienne compte en effet près de 5 millions de véhicules et la situation ne risque pas de s'arranger puisqu'environ 1000 nouveaux véhicules sont immatriculés chaque jour ici. Des chiffres effrayants, même si, il faut le préciser, il s'agit en majorité de deux roues. Bon, au niveau national, le nombre de voitures par habitant reste assez faible, mais avec l'arrivée de modèles moins chers, notamment cette désormais célèbre Tata Nano, la voiture la moins chère du monde, eh bien, le nombre de 4 roues va rapidement augmenter et donc la pollution aussi. Rajendra Pachauri, à savoir le patron du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat des Nations Unies, avait d'ailleurs publiquement affirmé que cette nano lui donnait, je cite, « des cauchemars » tellement elle risquait d'augmenter la pollution atmosphérique. Et puis bon, au-delà du parc automobile qui concerne donc les villes, on est quand même dans un pays où les 2/3 de la population vivent dans les campagnes. Il faut ajouter les usines qui sont souvent obsolètes et donc très polluantes, sans compter qu'en raison de la trop faible capacité du réseau électrique indien, eh bien même les projets industriels récents sont souvent doublés d'une centrale au charbon pour être autonome en énergie. Or, ces installations sont extrêmement polluantes. Et enfin, une chose qui est peut-être un peu moins connue, en raison du manque de bois dans les campagnes indiennes, la grande majorité des gens utilisent pour faire la cuisine de la bouse de vache séchée. Or, la fumée que dégage ce combustible est extrêmement polluante et ces émanations contribuent d'ailleurs en grande partie au fameux nuage brun qui recouvre désormais une bonne partie de l'Asie. Et explique aussi pourquoi les maladies respiratoires sont aujourd'hui une des principales causes de mortalité dans cette région du monde.
Ce que je vous propose, Pierre Prakash, c'est de retrouver Daniel Mermet et Guy Vanctil, qui étaient en Inde dans l'émission « Là-bas si j'y suis ». C'était diffusé en janvier 2010. Ah, ils sont beaux.
C'est bien la décroissance, hein. Parce qu'on est arrivé au pays de la décroissance. Tout le monde en rêve. Là, voilà, par exemple, là, au bord de la route, eh ben, les gens sont en train de se chauffer avec quoi? Avec des morceaux de carton, des simples morceaux de bois. Là, qu'est-ce qu'on a? aussi des gens qui sont très peu de lumière dans cette ville. Là, on voit des gens qui sont en train, avec des vieux engins, en train de récupérer des pièces pour réparer les voitures. Très peu de voitures, de moins en moins. À partir de la tombée de la nuit, plus de circulation. Là, juste une lampe. Et encore.
Ampoule basse consommation.
Ah, ampoule basse consommation. Ici, c'est la basse consommation.
De tout.
De tout, de tout, de tout. Et les gens sont bien, sont heureux, sont souriants.
Même les armes que portent les gardes frontières, ou en tout cas les checkpoints, sont des vieilles pétoires sorties dans ces eaux.
Des armes de récupération. Voilà, c'est vraiment la décroissance totale. Et c'est merveilleux.
En plus, dans le noir.
Voilà, là, par exemple, pas de bitume. Les ordures, mais pourquoi faire des brûleries d'ordures, des tas de choses qui polluent? On les laisse là sur place.
Voilà, critique de nos belles sociétés, nous, du gâchis hein, et du superflu. Vous vous retrouvez, vous aussi, Pierre Prakash, lorsque vous promenez dans New Delhi ou bien ailleurs, à travers ces propos?
Oh bah oui, absolument. Hein. C'est vraiment un pays où, encore une fois, en raison de la pauvreté, les gens... réutilisent systématiquement tout, on ne jette pas, on recycle. Maintenant, je suis pas vraiment d'accord avec l'aspect décroissance, parce qu'il y a aussi une consommation effrénée dans ce pays qui découvre un petit peu la société de consommation, en tout cas les classes supérieures, ou même ce qu'on appelle ici la classe moyenne, et il y a une soif de consommation absolument énorme, et bon, ce qui signifie a priori que ce pays s'oriente vers la société de consommation à l'occidentale, si on peut dire.
Alors pour être aussi positif, on va souligner qu'il existe quand même des initiatives pour lutter contre la pollution. Par exemple, vous avez ce grand projet annoncé à l'automne pour nettoyer le Gange.
Tout à fait. Le gouvernement a annoncé en octobre dernier le lancement d'une grande campagne baptisée Clean Ganga, tout simplement, qui prévoit de nettoyer le célèbre cours d'eau d'ici 2020 pour un coût estimé à 2 milliards de dollars, un projet de longue haleine donc, qui vise notamment à s'assurer que les eaux usées des villes qui se trouvent sur les rives du Gange soient traitées avant d'être déversées dedans. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien pour l'instant, 80% des égouts de ces villes tombent directement dans la rivière sacrée sans aucun traitement préalable. Une pollution à laquelle il faut en plus ajouter les rejets d'usines qui, encore une fois, déversent souvent leurs déchets tels quels dans la rivière.
Alors, on vise un taux de croissance de 8-9% à peu près cette année et puis aussi en 2011. Donc, ça veut dire qu'il y a un corollaire, ce sont les gaz à effet de serre. Est-ce que le gouvernement indien a pris quand même des mesures pour lutter contre le changement climatique ?
Oui, New Delhi a mis en place, il y a maintenant un an et demi, c'était à l'été 2008, un plan d'action national de lutte contre le changement climatique qui consiste dans un premier temps à créer des groupes de travail chargés de plancher sur 8 grandes problématiques comme l'énergie solaire, la conservation de l'énergie, l'agriculture, l'eau, la reforestation, les habitats durables et les écosystèmes de l'Himalaya, donc la problématique des glaciers qu'on évoquait tout à l'heure. Et l'idée est d'une part de trouver des solutions pour limiter l'impact du réchauffement climatique avec par exemple la plantation prévue de 6 millions d'hectares de forêts à travers le pays et d'autre part d'en mitiger les conséquences, par exemple en promouvant de nouvelles cultures plus résistantes aux températures extrêmes qui s'annoncent. Ceci dit, comme on l'a vu à Copenhague, l'Inde, qui est, je précise, le quatrième émetteur de gaz à effet de serre de la planète, refuse par contre tout engagement chiffré sur ses émissions futures, même si elle promet des réductions volontaires, réductions qui seraient proportionnelles à sa croissance économique, c'est une nuance importante, c'est-à-dire un petit peu le modèle qu'a appliqué la Chine, donc pas d'engagement chiffré, mais une bonne volonté affichée, on va dire.
Alors on va parler maintenant avec vous aussi d'agriculture. Ce que je vous propose, c'est d'écouter cette femme que vous connaissez, qui est Vandana Shiva, donc militante écologiste, qui nous a évidemment alerté sur le suicide des paysans. Je crois qu'il y en a eu plus de 40 000 depuis 1997, donc des gens qui étaient complètement étranglés par les remboursements donc qu'ils devaient effectuer. Là, c'est un discours qu'elle avait prononcé à Orléans à la veille du procès des faucheurs d'OGM, c'était en mai 2006. C'est donc un extrait de l'émission de Ruth Stegazy sur France Culture, Terre à Terre. Je me suis dit qu'à une époque où l'impérialisme contrôle la vie elle-même, nous pourrions peut-être faire avec les semences ce que Gandhi avait réussi avec un rouet. Planter nos graines, les faire pousser et par notre propre production, lutter contre l'impérialisme des multinationales, de ces géants du gène. Bon, ceci dit, Gandhi ne s'est pas contenté de filer du coton sur son rouet. Il avait également détruit des pièces d'étoffe qui arrivaient de Manchester et de Lancashire, ces deux centres anglais qui avaient acquis le monopole sur les tissus en détruisant notre propre textile. Pierre Prakash, alors sujet OGM, là aussi c'est donc tout à fait important. Où en est-on? Parce que le gouvernement vient de refuser l'introduction de la première culture génétiquement modifiée.
Alors c'est pas exactement ça, il s'agissait en réalité de la première culture transgénique comestible, à savoir c'était une aubergine qui a été génétiquement modifiée pour mieux résister aux insectes. Précision importante parce que le coton OGM, qui
exact,
est non comestible,
bien sûr,
est lui autorisé à la
depuis
culture
longtemps.
Depuis longtemps, 9 ans, hein, depuis 2001. Mais sur les cultures comestibles, donc bah oui, le gouvernement a dit non le mois dernier. Le ministère de l'Environnement a estimé qu'il fallait faire davantage de tests scientifiques avant de pouvoir légaliser cette aubergine BT, comme on l'appelle ici. Aubergine qui, je précise, aurait été, si elle avait été validée, le premier légume transgénique au monde à être validé, puisque jusqu'ici, dans les autres pays du monde, les cultures qui ont été autorisées ne sont que des céréales, pas des légumes. Et donc la décision du ministre fait pour le moins polémique ici, auprès notamment des scientifiques, puisque l'organisme gouvernemental qui est chargé des évaluations avait lui donné son feu vert après 9 ans de tests, donc avis a priori scientifique, mais le ministre n'a pas suivi cet avis, et il n'a pas suivi cet avis pour les raisons, entre autres, qu'évoquait Vandana Shiva, c'est-à-dire qu'il a organisé une série de consultations publiques à travers le pays, et s'est rapidement aperçu que la plupart des paysans, des cultivateurs, étaient opposés à l'introduction de cette aubergine transgénique, tant pour des questions donc, de sécurité alimentaire, de sauvegarde de la biodiversité, que pour des raisons économiques, car cette aubergine OGM appartient évidemment à une entreprise, en l'occurrence une filiale du célèbre géant américain Monsanto, la bête noire des altermondialistes, si bien que les paysans indiens se seraient retrouvés concrètement à la merci de ce groupe étranger pour s'approvisionner en graines. Situation problématique lorsqu'on sait que ce légume, l'aubergine, est l'un des plus cultivés du pays et fait surtout partie du régime alimentaire des Indiens, notamment les plus pauvres. Bref, face au mécontentement des agriculteurs, le gouvernement a donc décidé de repousser l'échéance jusqu'à nouvel ordre.
On a eu cette révolution verte, Pierre Prakash, que vous connaissez bien sûr, donc ça s'est fait beaucoup aussi, il faut le rappeler, à base de pesticides. L'enjeu de demain est quand même là aussi d'ordre vital. On a parlé de l'eau, on parle de la nourriture, tout ceci va donc de pair. Vers quoi on s'oriente pour nourrir tout ce monde?
Alors justement, c'est aussi l'enjeu, je dirais, des OGM. C'est-à-dire que vous savez, bon, en Europe, on a tendance à dire les OGM, c'est les grandes entreprises, c'est les groupes, c'est les intérêts corporatistes. En Inde, il y a une dizaine, même une douzaine de laboratoires gouvernementaux, publics, qui planchent sur la question des OGM avec cette logique de dire les biotechnologies, ça va être ça la nouvelle révolution verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à augmenter les rendements, on a des problèmes. L'Inde perd quelque chose comme 30% de ses récoltes chaque année dues aux invasions de insectes, etc. Donc il y a des gens qui sont partisans de dire, écoutez, on perd 30% de notre récolte, un enfant sur deux en Inde et que souffre de moins de 5 ans souffre quand même de malnutrition, les OGM ça peut être la solution pour remédier à ces problèmes. Et puis il y a évidemment de l'autre côté, j'allais dire Vandana Shiva, parce que c'est quand même la porte-parole de ce mouvement, qui dit c'est extrêmement dangereux de se lancer dans cette voie, non seulement pour des questions de sécurité alimentaire et sur les impacts potentiels sur la santé que peuvent avoir les OGM, qu'on ne connaît toujours pas, mais aussi pour la question de biodiversité, parce que ça pousse à des monocultures, enfin, ça devient une logique économique dans ce cas-là, elle en tout cas et d'autres. Mais malheureusement, ces gens, bizarrement, sont plus connus à l'étranger qu'en Inde. C'est-à-dire qu'en Inde, Vandana Shiva n'est pas spécialement connu du grand public, et le débat sur les OGM, là, on en a beaucoup parlé avec cette histoire d'aubergine, mais sinon, je dirais que le grand public n'est pas vraiment au courant quoi, de ce qui se passe, des enjeux, etc. Il y aura un choix à faire, mais il y a surtout une chose qui est importante ici, c'est qu'il y a besoin d'une réforme de l'agriculture, du moins dans l'économie mondialisée dans laquelle on vit, en ce sens que l'exploitation moyenne indienne fait moins d'un hectare, ce qui aujourd'hui, quand l'Inde fait partie de l'Organisation mondiale du commerce est obligée de baisser ses droits de douane, etc., signifie que l'agriculture locale ne peut pas faire face aux importations américaines, européennes, subventionnées, etc., ce qui explique d'ailleurs en grande partie les suicides qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était sur le coton notamment qu'il y avait beaucoup de suicides, parce que tout simplement, le coton américain subventionné arrivait en Inde 30% moins cher que le coton produit localement. Quoi. Dans ce cas-là, c'est impossible pour les locaux d'arriver à continuer à vivre de l'agriculture. Et concrètement, s'il n'y a pas de réforme, c'est quand même 650 millions de personnes dans ce pays qui vivent de l'agriculture. Les deux tiers de la population vivent toujours directement de l'agriculture. Donc je pense que c'est un petit peu ça le grand défi et économique et social. Un des grands défis, en tout cas, de l'Inde dans les décennies à venir.
Bien, un grand merci, Pierre Prakash, donc, pour tous ces propos. Quel décalage horaire on a, là, en ce moment, avec New Delhi?
J'ai 4h30 d'avance sur vous.
Eh bien écoutez, bonne fin d'après-midi donc pour vous. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Au revoir Pierre Prakash.
Au revoir Denis.